Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken.
Chers auditeurs, chères auditrices, mes petits écureuils agités, j'espère que cette rentrée se passe bien pour vous et que vous osez. De mon côté, je me sens un peu plus libre du regard des autres. J'essaie de fixer de nouvelles règles pour ne pas me sentir trop vite dépassée. Je réponds plus à aucun message professionnel, texto, WhatsApp ou mail le week-end. Et je n'en envoie pas non plus, sauf si je suis par exemple bookée sur un plateau le week-end. Mais sinon, je me rends volontairement moins disponible, moins accessible pour mieux gérer mon temps et écrire. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Jérémy Ferrari qui nous parle de son spectacle Anesthésie Générale que j'avais vu au Casino de Paris et qui se joue en ce moment dans tous les zéniths de France. La tournée s'achèvera avec deux dates folles à Bercy. Réservez vos 9 et 10 mars 2024 pour voir Jérémy à l'Accor Arena. Il faut être clairement une bête de scène pour faire ça, mais ce sont de ses faiblesses dont me parle aujourd'hui Jérémy dans le podcast, ou plutôt de la façon dont il les a surmontées, ses addictions, l'alcoolisme, le reste. Quand j'aurais tendance à romantiser la figure de l'artiste maudit, Jérémy tient lui à dire que l'on n'a pas besoin de substances pour créer, au contraire. Il précise que l'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas et que peu importe ce que tu as dans ton jeu de cartes, c'est à toi de décider que tu vas t'en sortir, quoi qu'il arrive. Jérémy revient sur les étapes de sa carrière et confie qu'il était persuadé que le succès allait le guérir. Or, pas du tout, le succès n'apaise ni ne fait vriller, il se révèle insuffisant pour combler un manque, résoudre quelque chose de trop profond. Trop, c'est ce qui faisait souffrir Jérémy, être trop tout le temps, jusqu'à ce qu'il se soigne par la parole et notamment les groupes de parole, les réunions des narcotiques et alcooliques anonymes. Mais il s'exprime sur encore plein de sujets que je vous laisse découvrir dans cette conversation. Bonne écoute! Bien sûr, je connaissais Jérémy Ferrari de nom, je savais qu'il était une star de l'humour français, mais je ne l'avais encore jamais vu en spectacle. Je l'ai découvert dans le podcast de Kian Kojandi et Navo, Un bon moment. Et j'ai été frappée par la force de son propos. C'est si rare que les humoristes, les acteurs, les artistes français s'expriment sur les questions de santé mentale. Il y a une frilosité, une crainte de plus être engagé, considéré fiable, alors que c'est exactement ce qui m'avait séduit dans les podcasts d'humoristes américains. Qu'ils se livrent sur leurs addictions, qu'ils donnent accès à la noirceur, la fragilité. Tout ce que fait Jérémy Ferrari dans son spectacle. Sans ne rien révéler, à part le pitch de départ, Jérémy raconte comment sa tentative de suicide l'a mené à se questionner sur lui-même, son métier, sa relation au public et sur le système de santé français en soi, dans sa globalité, depuis sa création. C'est passionnant, ça ouvre les yeux sur les injustices et les failles, c'est hypnotisant. On sort du show de stand-up pour frôler avec la performance de mentalisme, de magie. Jérémy joue avec nos perceptions, nos croyances, il nous devine, nous confronte et nous fait rire bien sûr. C'est un succès fou, après une tournée des Zéniths, Jérémy finira Anesthésie Générale les 9 et 10 mars 2024 à Bercy, Accor Arena. Merci Jérémy d'accepter aujourd'hui de participer à mon podcast. Et j'ai envie, si tu le veux bien, de commencer par une première question. Un bon humoriste est-il forcément un addict?
Non. Non. Heureusement, ce serait beaucoup, beaucoup trop d'alcoolique sur scène. Non. Déjà, ça serait bien que ce soit tous drôles. Tous les artistes ne sont pas maudits. Tous les artistes ne sont pas alcooliques ou addicts. Le talent n'est pas nécessairement lié à des addictions. Il y a plein d'alcooliques qui n'ont pas de talent, hein. Et plein de gens de talent qui ne sont pas alcooliques. Ouais. Donc non, même ça m'agace même un peu ça, le côté artiste maudit. Ça fait partie des choses aussi où je me suis dit, il faut que je me reprenne parce que ça devenait pathétique. Je me trouvais pathétique, en fait, ce côté, ah oui, je fais des tournées des Zéniths et le soir, je bois et je suis malheureux et machin. Et les gens se disent, oh, oui, mais en même temps, il a tellement de talent, c'est normal qu'il souffre, il a des trucs qu'on comprend pas, des perceptions, blablabla. Tout ça m'agace profondément. Faut arrêter de chouiner, en fait. Enfin, ça y est, en fait, c'est bon, allez, je vais me battre. J'ai des problèmes d'alcool, ok, j'ai des gros problèmes d'alcool, ok, bah, je vais me battre. J'ai des troubles mentaux, je vais me battre pour savoir ce que c'est, pour les comprendre, et puis je vais me sortir de là. J'ai plein de cartes dans mon jeu que plein de gens n'ont pas aussi. Tu vois, c'est pour ça, quand on est artiste, on a quand même la chance de bien gagner sa vie, on a la chance de faire notre métier, de vivre notre passion. C'est des cartes, c'est des grosses cartes dans un jeu. Donc, y a plein de gens qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes de troubles obsessionnels, de troubles d'addiction, de maladies mentales, de troubles de maladies invisibles, peu importe comment on les appelle, de drames dans leur vie, et qui n'ont pas ces cartes dans leur jeu. Donc, à un moment donné, comme une personne non publique, en fait, on doit simplement se dire, qu'est-ce que je décide pour la suite de ma vie ? Est-ce que je continue de tout détruire ? Est-ce que je continue de faire de la merde ? Il n'y a pas d'autre mot. Alors que j'ai plein de choses pour moi. Ou est-ce que je me bagarre pour aller mieux ? Et je ne voulais pas devenir cet artiste. Vous savez, quand on s'extasie devant Gainsbourg, qui est bourré sur un plateau télé, c'est très rigolo, effectivement. Moi-même, je suis le premier à me marrer quand je le vois bourré insulter tout le monde. Mais en vrai, ce n'est pas beau.
Ouais.
Il est beau, Gainsbourg, quand il joue du piano et qu'il chante une chanson. Il n'est pas beau quand il est sur un plateau bourré à insulter tout le monde. Ce n'est pas ça, l'irrévérence. Là, c'est pas un mec irrévérencieux, là, c'est un mec bourré. C'est pas du courage, c'est un gars bourré. Tu le mets dans un PMU, ça fait rire personne.
Ouais.
Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut casser cette image de comme les artistes qui disent qu'ils ne peuvent créer que sous substance. Pour moi, ça c'est une énorme blague.
Okay.
Si un mec me dit ça, je vais lui répondre, mec, t'es juste un addict et tu t'es juste trouvé une excuse.
Ouais.
Et voilà, tu dis ça dans une cure de désintox ou tu dis ça dans une réunion d'alcoolique anonyme ou narcotique anonyme, cocaïnoman anonyme ou ce que tu veux, les gens vont se marrer parce qu'on sait tous que c'est pas vrai. On sait tous que ça, c'est de la... Même si le mec, même Jim Morrison qui disait qu'il avait besoin d'un dérèglement systématique des sens pour accéder à... C'est très beau, c'est très bien dit. Le gars est magnifique, le gars est charismatique, le gars a un talent incroyable. Mais non, mec, t'es juste un alcoolique et un drogué.
Ouais.
Et tu t'es trouvé une excuse pour continuer. Donc, Jim Morrison à jeun, il aurait fait des choses magnifiques aussi. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois. Donc non, le talent n'est pas lié aux addictions et les drogues ne donnent pas plus de talent. Ça, c'est pas vrai.
Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier verre de rouge ?
Je me souviens que quand j'avais déjà moins de 10 ans, j'allais taper dans les verres aux fins de repas de famille. J'allais taper dans les verres, j'avais déjà vidé les verres. Donc je me souviens de ça. Je me souviens de ma première cuite qui se passe en famille. Je crois que c'était pour l'an 2000. J'ai dû prendre ma première cuite.
Okay.
Et mes premiers verres, non, je me souviens pas du premier. Je me souviens. D'ailleurs, je buvais pas beaucoup de vin rouge. J'aimais pas trop le vin rouge.
De la bière,
du rosé, beaucoup de rosé. Je sais pas pourquoi rosé.
Le rosé,
je le buvais glacé. Je pensais pour ça, ça devait mieux passer dans mon estomac. J'en sais rien. Pourtant, c'est pas le truc le plus, tu vois. Mais je buvais beaucoup de rosé. Et puis, si j'étais en soirée, des alcools forts.
Ouais.
Et puis, quand j'étais vraiment dans les périodes très compliquées, moi, là, j'attaquais directement l'alcool fort le matin pour mettre une bonne dose. Non, du whisky.
Okay.
Je buvais du whisky le matin parce que j'en mettais dans mon café et que ça me mettait une dose très rapide d'alcool, quoi.
Okay.
Je buvais pas du whisky toute la journée, mais c'est souvent quand j'ai commencé à boire le matin, c'est ce que je faisais. Parce qu'en une tasse de café, j'avais pris un shoot de whisky, quoi.
Et t'étais plus bourré. Enfin, tu te souviens, à un moment, tu t'es dit, ah, mais en fait, ce sentiment d'ébriété, tu le ressentais plus ?
Je l'ai jamais vraiment ressenti. Hein.
Okay.
Il fallait vraiment que je boive énormément d'alcool pour être vraiment sous. Ça a toujours été. J'ai toujours eu une très 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 forte résistance aux drogues, aux médicaments et tout. Il me faut des doses de cheval pour que ça commence à me faire un effet.
Ah ouais. Donc, tu l'expliques comment ça ?
Je sais pas. J'en sais rien.
T'es très en contrôle ?
Non, je pense que je pense que c'est aussi mon corps. Je métabolise vite. Tout est comme ça. Tu vois, je grossis pas beaucoup. Je peux manger 2 kilos de pâtes. Tu vois. Enfin, tout est. Je pense que je brûle beaucoup. Je pense que je métabolise bien. Et puis effectivement, j'ai un truc aussi dans ma tête. Alors après, c'est pas parce que j'étais pas bourré que j'avais pas des comportements d'un mec bourré. Hein. Mmh. Tu vois, il faut bien remettre les choses à leur place. Hein. J'avais quand même les effets de l'alcool. Mais par contre, je titubais pas trop. Je bafouillais pas trop. Mais par contre, ça me rendait plus colérique, plus triste, plus. Enfin, j'étais quand même sous.
Ouais, c'était plus profond. Ouais.
C'était
ouais.
beaucoup. Mais ça ne se voyait pas forcément.
Oui, tu vomissais pas.
Non.
Ouais.
Non, j'étais pas malade, c'était très rare. Après, sur la fin, au moment où je fais ma tentative de suicide, ouais. Et tout, évidemment, là, je bois du matin au soir. Donc, okay. Je dors plus et je fais vraiment que boire. Donc là, au bout d'un moment, je finis par être bourré. Mais il m'en fallait vraiment énormément pour être dans un état où ça pouvait vraiment se voir de l'extérieur, quoi.
Et c'est donc suite à cette tentative de suicide, vraiment, en fait, finalement, le wake-up call, c'est toi-même, ou est-ce qu'il y avait aussi l'entourage qui avait essayé avant d'intervenir ou de te dire « Oh, Jérémy... »
Tout le monde essaye. J'ai la chance d'avoir un entourage formidable qui a toujours été là, qui a toujours essayé de comprendre sans jugement, sans me culpabiliser. Michael, mon associé, qui
était là,
qui était toujours là, ne m'a jamais culpabilisé, par exemple. Il m'a jamais dit c'est ta faute, regarde. Donc j'avais un entourage très chouette, mais tu sais,
c'était une décision que tu pouvais prendre que toi-même, quoi.
Mais oui, et puis puis je suis un adulte, et puis je menais mes boîtes de production, et puis je suis sur scène, et puis je fais du sport et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire?
Ouais, c'est ça.
J'ai 30 ans, ouais. Je t'emmerde. J'ai envie de boire, je bois, tu vois.
Ouais.
Donc si tu veux, on peut pas sauver quelqu'un s'il veut pas, tu vois. Donc j'avais un entourage très chouette. Qui m'a soutenu, qui m'a compris, qui m'a pardonné beaucoup de choses, qui m'a écouté. J'ai eu la chance d'avoir des gens très bienveillants autour de moi, qui m'ont fait confiance. Quand je leur disais que j'allais arrêter, ils m'ont cru. C'est pour ça que je n'ai pas perdu trop de gens. C'est pour ça que, même si j'ai pu me disputer avec des gens, je ne crois pas qu'il y ait de gens trop qui me haïssent, parce qu'ils ont toujours compris. Donc ça, c'est une grande chance d'avoir des gens bienveillants autour de moi, des gens... Qui ont toujours gardé une tendresse envers moi, parce qu'ils sentaient que fondamentalement j'étais pas quelqu'un de mauvais, je crois. Mais après, le fait de s'en sortir, il y a personne qui peut s'en sortir pour toi. Hein. Mmh. C'est toi qui. Il y a plein de gens qui m'écrivent pour dire mon frère boit, comment je peux faire? Tu peux pas.
Ouais.
Si ton frère boit, c'est à lui d'aller aux Alcooliques Anonymes. Tu peux l'enfermer dans une cure de désintox. S'il y va à contre-cœur, de toute façon, il va ressortir et il va reboire. Donc c'est une décision personnelle.
Ouais, on se sauve.
Et il n'y a pas de facilité, c'est pas facile, c'est pas simple. Si tu crois que tu peux être drogué et continuer ta vie d'avant sans drogue, tu te trompes. Il va falloir évidemment changer des choses, il va falloir évidemment faire des concessions, il va falloir évidemment faire des sacrifices. C'est une évidence, mais la vie est meilleure.
C'était ta toute première tentative de suicide ?
Oui. Oui, il n'y en a eu qu'une.
Parfois, on dit que le suicide, c'est dans la famille. Tu sais que c'est un truc qui se lègue.
Il y a des études sur ça. J'ai lu des papiers sur le fait qu'on pouvait léguer un patrimoine d'angoisse, par exemple, ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, peu importe. Tu sais, l'épigénétique, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il t'explique que tes actions ont quand même une... tes actions, ton quotidien, ton concret, on va dire, influent sur qui tu es d'un point de vue génétique. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, hein. Là je vulgarise, hein. C'est pas, tu changes pas tes gènes en buvant de la vitelle, c'est pas ce que je dis, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais quand même c'est intéressant parce que ça te prouve que le meilleur de toi peut s'activer quand même en quelques mois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement et factuellement, c'est toi qui décides. Que tu partes avec plus ou moins de handicap, c'est une chose. Que tu décides que ces handicaps ont pris le dessus, c'en est une autre. Donc je crois que peu importe en fait ce qu'on t'a légué, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as dans ton jeu de cartes, c'est à toi de décider. Je vais me battre quoi qu'il arrive et je vais m'en sortir quoi qu'il arrive. J'ai vécu des drames, j'ai eu des problèmes, j'en ai actuellement. C'est dur, oui, oui. Il y en a pour qui c'est plus simple, oui, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, mais peu importe, faut se battre et c'est tout. Parce que la seule chose sur laquelle tu es du pouvoir, c'est ce que tu peux changer et ce que tu peux faire. Donc peu importe en fait avec quoi tu pars, l'important c'est là où tu arrives. Et je pense qu'à partir du moment où tu mets les moyens, tu peux arriver à ce que tu veux. Donc prendre en compte le fait que potentiellement, génétiquement, on a pu te les mots, ok, mais une fois qu'on a dit ça, si ça sert d'excuse pour pas s'en sortir, ça sert à rien. Donc factuellement, bon.
Non, c'est juste dans les histoires, peut-être que ça se trouve, on aurait pu, quand tu étais enfant, déjà déceler peut-être que tu étais HPI, ou en tout cas te faire voir des psys enfants qui auraient permis que tu t'en rendes pas compte à 30 ans.
Ouais, peut-être, après c'est comme ça, selon là où tu vis, selon l'époque à laquelle tu vis, dans quel cadre tu grandis, tu vas avoir plus ou moins accès à des psychiatres. Moi, là où j'ai grandi, à l'époque où j'ai grandi, là où je vivais, un psychiatre, c'était que t'étais ouf, tu vois. Donc à moins que tu te mettes à te taper la tête sur les murs, on t'emmenait pas voir un psychiatre. Alors on peut se dire, c'est pas bien, et puis peut-être que c'est bien aussi, parce que peut-être que si on m'avait emmené chez des psys à 10 ans, ben, je me serais dit toute ma vie je suis ouf, alors que là de toute façon on m'y emmenait pas, donc voilà, t'es pas ouf, t'as tes deux jambes, t'as tes deux bras, allez, ouais. Lève-toi et va, et ça va.
T'étais comment comme enfant, Jérémy? Timide
Ouais, plutôt dans mon coin, plutôt timide. J'étais pas très... J'étais curieux de plein de choses. J'avais envie de faire plein de choses. Mais j'étais... Non, j'étais assez... J'étais colérique, je faisais déjà des crises de colère et tout. J'avais déjà un peu des angoisses. J'étais déjà... Je me posais beaucoup de questions, toujours dans l'introspection. J'étais un peu obsédé par la mort. Il y a la mort, qu'est-ce que c'est la mort, voilà. Donc j'étais pas... C'était pas... J'étais pas forcément un enfant très léger, quoi. Voilà. Mais bon, tu vois, j'ai fait mon adolescence, j'avais mes potes, je sortais, j'avais des copines, j'avais des copains. Bon, voilà, tu vois, c'était pas non plus... J'étais pas enfermé dans ma chambre à me balancer face à un mur. Mais effectivement, j'avais déjà des questionnements qui étaient un peu étranges. J'avais déjà de l'angoisse, j'avais... Tous ces troubles que j'ai ont commencé jeune. Donc j'avais déjà des comportements et des questionnements et des angoisses. Et j'avais déjà plus que la moyenne. Ça a commencé... très petit. Mais bon, comme je te dis, moi j'ai vécu dans un truc où ben, on avance et voilà.
T'as des frères et sœurs ?
Non.
Ah, t'es fils unique. Tu te souviens du moment où tu t'es dit en fait je vais être sur scène ?
Oh oui, à 10-11 ans. Okay. J'ai vu des vidéos de Pierre Palmade, de Muriel Robin, ma mère regardait ça. Et tout de suite je me suis dit je veux faire ça. Tout de suite. Donc après je me suis inscrit à des cours de théâtre à l'école. Ça se passait très bien dans les cours de théâtre à l'école. Et puis ensuite je suis rentré au théâtre de Charleville en tant qu'élève. Et puis j'ai commencé à faire j'ai voulu monter un spectacle avec des sketchs à moi et des reprises. Ensuite mon prof de théâtre m'a programmé officiellement dans la saison du théâtre de Charleville. Et donc là j'ai eu mon premier spectacle à 16 ans. Puis après j'ai jamais arrêté, j'ai continué, je suis arrivé à Paris. Bon après c'est tout.
Ouais, c'est ton histoire que ton on connaît on connaît les cours Florent et ensuite ton spectacle et Ruquier. Et on ne demande qu'à en rire. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que tu peux exprimer aussi en interview de ce que j'ai lu, c'est que finalement tu t'attendais à ce que de percer en tant que artiste et ça soigne en fait des zones d'ombre, et en fait pas du tout.
C'est ça, c'est que moi j'ai commencé à avoir des psychiatres adolescents.
Okay.
On me décèle rien, on me dit non, il y a rien. Bon, à 20 ans, je retourne voir des psychiatres, des psychanalyses, des comportementalistes, je vois plein de gens. Non, il y a rien. Bon, on sait pas, on comprend pas, c'est rien, ça va passer tout seul. Bon, donc il y a rien qui passe. À 25 ans, quand ça commence à marcher, bah oui, je me dis que forcément le succès va apaiser tout ça, que le succès va m'apporter des choses. Je suis convaincu que le succès va tout apaiser, puis ça n'apaise rien, puisque ça ne te soigne pas. Donc on peut te donner toutes les salles pleines du monde, quand t'es plus sur scène, ça ne va pas. Donc c'est à ce moment-là que je sombre, parce que j'attendais tellement du succès, je pensais que ça allait me guérir, puis ça soigne pas. Voilà. Maintenant avec le recul, ça me semble absurde d'avoir pu penser ça, mais sur le moment à 25 ans, je me dis si j'ai des grandes salles pleines et des grandes, je vais forcément aller mieux, quoi.
Ouais,
et
puis, l'amour des gens, la reconnaissance.
Donc c'est pas forcément le succès qui te fait vriller, c'est le fait qu'en fait ça ne t'apaise pas. Mmh. Donc à un moment donné tu dis putain mais j'ai tout et en fait ça va pas. C'est là où c'est plus difficile.
Ouais, mais donc déjà adolescent, t'es allé voir des psychiatres.
Ouais, déjà adolescent. Ouais.
Et tu te souviens du déclenchement ? C'était toujours ces crises de colère, ces crises d'angoisse ?
Le déclenchement, c'est que j'ai un milliard de trucs dans ma tête qui font que je ne suis pas bien. Donc des flashs, des obsessions, des crises d'angoisse, des crises de paranoïa, des crises de... Un milliard de trucs dans ma tête qui font que le quotidien est insupportable.
Ouais.
Que tout est... Que mes relations avec les autres sont compliquées, que je suis angoissé tout le temps, que tout est un obstacle, que... les relations amoureuses, c'est une catastrophe. Les relations amicales, c'est une catastrophe. Enfin, tout est trop pour moi. Donc je cherche à comprendre ce qui se passe. Pourquoi je suis tout le temps. Trop dans l'angoisse, toutes mes réactions sont dans l'angoisse. Quand je suis triste, je suis pas triste, c'est la fin du monde. Quand je suis en colère, je suis pas en colère, j'ai envie de tuer tout le monde. Donc tout est excessif tout le temps. Donc la vie est très compliquée, quoi. Parce que le quotidien est fatigant, en fait. Parce que tout m'agresse. Donc je cherche à comprendre ce qui se passe. Mais au début, c'est un mélange. C'est maintenant que je peux dire j'ai ça. Mais au début, je peux pas te dire ce que j'ai. Je vois juste... Ça change toutes les secondes. À 17h, je fais une crise de paranoïa. À 18h, je fais une crise d'angoisse. À 19h, je suis hyper de bonne humeur. À 20h, je suis hyper de bonne humeur. À 21h, j'ai envie de mourir. Il y a aucun sens, jamais, dans rien. Donc tout est compliqué, donc je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis obsessionnel idéatif, donc si j'obsède sur, je sais pas, je vais me dire un matin, tiens, je suis malade, je dois être malade, je dois avoir un cancer, je me vois mourir dans un lit, enfin voilà.
Ouais, ça vient de solliciter en permanence. Mais en même temps, d'être obsessionnel, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, oula, c'est ce qui fait que je suis un putain de bosseur ? En fait, d'avoir une idée fixe, de devoir aller jusqu'au bout, de défendre le... Enfin, tu vois, de pas lâcher, de rester en... en répétition de l'idée. J'imagine que ça doit quand même participer à ton travail d'écriture.
Oui, mais ça c'est ce que tu décris toi, c'est la partie comment dire. Tu sais, il y a plein de gens qui sont obsessionnés dans le travail et qui n'ont pas des images d'eux en train de mourir dans un lit d'hôpital. Tu vois. Mmh. Ça c'est le problème de la vulgarisation du terme médical obsession. Ça.
Okay.
Tu sais, c'est dire ah il est obsessionnel, il travaille tout le temps. Mais, non. Moi je pense que je travaille tout le temps pas parce que je suis obsessionnel. Je pense que je travaille tout le temps parce que quand je travaille j'ai pas de flash. Tu vois, je pense que ma faculté de travail elle est due à mon hyperactivité. Tu vois, c'est comme le trouble de l'attention avec hyperactivité. On va te dire oui. C'est parce que tu es hyperactif que tu fais beaucoup de sport. Oui, ou alors je fais beaucoup de sport parce que comme je suis hyperactif, du coup, j'ai pas d'angoisse quand je fais du sport, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tout est une question de la sémantique est importante, mais la sémantique elle est dangereuse sur les maladies invisibles parce que c'est justement à cause de ça que du coup souvent les gens sont pas compris. Parce que quand on va te dire t'es obsessionnel, justement bah on dit ouais, un obsessionnel. Ah bah oui, moi tu sais, moi plein de fois on m'a dit dans ma vie bah oui, moi c'est pareil, je peux aller vérifier 3 fois si j'ai fermé ma porte.
Oui, ouais. Bah, tu un vois, petit toc.
C'est pas bon. Donc la sémantique est importante parce que je pense pas qu'il faille lier les troubles au côté positif et ni lier le côté positif au trouble. Je pense que j'aurais pu faire une belle carrière sans trouble aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être malheureux pour avoir du talent. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des horreurs dans la tête pour pouvoir être créatif. Peut-être que c'est une part de mon talent, peut-être, j'en sais rien. Et peut-être pas. Parce que si on part sur ce principe, alors ça veut dire que si un jour je vais beaucoup mieux, j'aurai plus de talent. Et je peux pas croire. Ça.
Non, bien sûr.
Donc,
mais après, peut-être que le lien, je sais pas, hein, c'est moi qui fais évidemment des raccourcis, mais que tu vois, que t'es bâti tout seul un empire, que tu sois à la tête de ta prod, etc. Peut-être que finalement, c'est le côté bon d'être parano, c'est que finalement tout repose sur tes épaules et le fait de moins faire confiance, bah, ça veut dire qu'au final, c'est toi le maître à bord, quoi.
Il y a forcément une part de ça. Il y a forcément une part de ça. C'est évident que mes spectacles sont écrits. Si quand tu connais ma liste de troubles obsessionnels et que tu analyses mon écriture, en fait tu la reconnais dans l'écriture. Je fais des digressions incroyables, d'un coup je suis très agressif, d'un coup je suis très mélancolique, d'un coup donc c'est très révélateur de qui je suis. C'est sûr. Le fait d'avoir voulu monter toutes ces sociétés, c'est pour avoir effectivement un pouvoir et une emprise sur les choses. Donc c'est sûr qu'il y a une part dans ce que je fais, il y a une part de mes troubles, c'est évident. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont tout ça sans ces troubles. Mmh. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est toujours difficile de... je pense aussi que j'ai des qualités. Et que je suis aussi un entrepreneur et que peut-être sans ces troubles, j'aurais bâti la même chose, j'en sais rien. Mmh. Alors c'est sûr qu'on a envie de lier un peu ces troubles à ce que j'ai. Et en plus, ils sont tellement présents chez moi, ils sont tellement puissants dans ma personnalité, dans ce que je suis, que effectivement, je pense que si on est objectif, il y a forcément une part de mes troubles qui ont créé tout ce que j'ai fait, c'est sûr. Mais c'est plus pour les fuir. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est plus pour fuir ces troubles que j'ai monté tout ça, plutôt que de penser que ce sont ces troubles qui ont été moteurs. Mmh. Je pense que c'est plus une fuite et que... J'ai besoin de réussir pour me rassurer, j'ai besoin de maîtriser pour me rassurer, j'ai besoin d'être entouré des meilleurs pour me sentir en sécurité, j'ai besoin d'être entouré de belles personnes. Vous voyez, tu vois, par exemple, ça, les gens avec qui je travaille, Michael, par exemple, Inès, Julia, Roxane, tous ces gens qui bossent avec moi, sont des gens qui sont là depuis des années. Mes régisseurs en tournée, Aurélien, mon directeur technique, il bosse avec moi depuis plus de 10 ans, 15 ans. Je les ai gardés parce que c'est des gens géniaux et ils sont pas restés parce que j'ai des troubles. Ils sont restés parce que je crois que je suis quelqu'un de bien. J'essaie et qui m'aime. Donc, et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu monter tout ça. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que je ne renie pas le fait que mes troubles ont généré des choses positives, mais je refuse de croire que sans ces troubles, j'aurais pas pu faire les mêmes choses. Je ne sais pas quelle est la part, on n'aura jamais réellement la réponse, mais je veux pas me dire ça en tout cas, et je veux pas dire ça aux gens.
Oui, ça serait légitimé en fait.
C'est comme de dire tu vois, regarde, moi je viens de milieu plutôt très modeste. Je refuse de penser qu'il faut venir d'un milieu modeste pour comprendre ce que c'est que le quotidien des gens. Alors que ça serait très facile pour moi de dire moi je viens de là, donc je sais mieux que vous. Mais non, c'est pas vrai. Il faut de l'intelligence, de l'empathie. Il n'y a pas que des gens qui ont vécu dans la pauvreté, qui ont de l'empathie et de la bienveillance. En fait, je crois qu'il faut accepter la nuance. Je crois qu'il faut accepter de ne pas être sûr de tout. Et puis, ouais, la nuance. Mais par contre, c'est chouette d'en parler. Tu vois, c'est bien d'en parler et de réfléchir à ça.
Bah, ça permet d'avoir des mots précis et ce que tu dis, en fait, de ne pas tout mettre dans le même sac et d'essayer d'être un peu plus de détailler ce qu'on entend par ces mots. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un truc qui te saoule, c'est tous les gens qui doivent te dire « Ah, mais je suis comme toi, ah, comme moi. » Je veux dire, moi, je suis allée voir ton spectacle avec une amie qui, en sortant, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Ah, il est comme moi. Moi aussi, je suis HPI, etc. Moi aussi, je suis... »
Ah ben moi, j'ai jamais rencontré autant de HP. Ouais. je pense que 80% de mon public est surdoué, a priori, d'après les messages que je reçois. mais tu sais, même ça me fait rire parce que, tu sais, moi, le côté HP, par exemple, ben, est-ce que tu as fait un test de QI? Non, j'ai pas fait un test de QI. Pour une simple raison, qu'en plus j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc si je fais un test de QI, il y a de grandes chances qu'on me découvre un QI de 43. Donc parce que tu vas me demander des trucs, mon cerveau va refuser de traiter l'information. Donc après on m'a dit est-ce que tu es plutôt HPI ou HP je sais pas quoi. Enfin on me pose des questions comme si j'avais. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. Moi pourquoi je dis que je suis HP, c'est parce que quand le côté haut potentiel a un impact sur le trouble de l'attention avec hyperactivité et le trouble de l'attention avec hyperactivité a un impact sur le côté HP. Moi, le côté HP, c'était juste un outil pour mieux me comprendre. C'était pas pour me dire j'ai une intelligence supérieure, ça je le savais déjà. Je plaisante, mais c'est pour dire que tu vois, qu'est-ce que ça change à ma life, tu vois. De toute façon, j'ai arrêté l'école en seconde, je m'en fous complètement. Et mes capacités, j'avais pas besoin de me les prouver. J'avais à 30 ans, j'ai appris ça, j'avais 31 ans, j'avais pas besoin de me prouver que je savais écrire un spectacle ou monter des boîtes. J'avais déjà monté des boîtes et écrit des spectacles. J'avais déjà confiance en mon intelligence. Je me disais pas je suis surdoué, je suis pas surdoué, je me disais je suis un garçon intelligent. Je suis pas forcément très cultivé, je suis pas allé beaucoup à l'école, j'ai plein de failles, j'ai plein de lacunes, mais je suis un mec intelligent. Je me trouvais cette qualité et je le dis sans. Voilà, je me disais, je suis un mec intelligent. Bah, j'ai le droit de me dire, je suis un mec intelligent.
Bah oui.
Donc, mais qu'on me dise, t'es au potentiel, je sais pas quoi, ça veut dire quoi, tu vois. D'autant que. Bah, après, tu vois, c'est pareil.
C'est la course au diagnostic, en fait, c'est que tout le monde cherche une réponse.
Mais moi, ça m'intéresse. Mais en fait, le fait de te dire ton nombre de points de QI, ça sert à quoi, à part dire à quelqu'un, j'ai 138, toi, t'as 127, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en vrai. La question, c'est, moi, j'ai cherché ça pour comprendre comment j'étais. Et par exemple, tu vois, parce que je voyais plein, du coup, j'ai étudié plein de trucs sur les HP et il y avait plein de HP, je les entendais parler, je disais c'est marrant parce que je me reconnais pas du tout le discours. Et après, par exemple, on m'a envoyé un bouquin que j'ai trouvé passionnant sur les hauts potentiels philo-complexes et les hauts potentiels laminaires. Ça, par exemple, on n'en parle jamais, alors que ça, c'est intéressant. Là, j'invite les gens qui sont au potentiel à s'intéresser à ça. Savoir que ça 137 ou 142 ou 126 ou 110 ou 117, on s'en fout totalement. Par contre, la partie laminaire et philo-complexe, ça, c'était intéressant.
Et tu peux nous expliquer en deux mots?
Alors, j'ai peur de dire des bêtises, parce que j'ai lu le bouquin il y a un moment, mais grosso modo, ça t'explique que chez les hauts potentiels, je vais vulgariser à mort le propos. Ouais. Hein. Je dis ça aux gens qui nous écoutent, ne vous excitez pas sur moi. Non, c'est pas du tout ça. Ne vous excitez pas. J'admets que je puisse dire peut-être des conneries, ça fait longtemps que j'ai lu le bouquin, mais je vais essayer d'être très large, d'être exprès pour pas dire trop de bêtises, mais grosso modo, ça t'explique que t'as des hauts potentiels qui vont être plus ou moins, comment dire, pour vulgariser à mort, vraiment vulgariser à mort, c'est volontaire, je le répète, c'est volontaire, on va dire que t'as des gens qui vont avoir des intelligences qui vont les aider énormément, par exemple sur tout ce qui est mathématiques, logique, etc. Et puis d'autres qui vont avoir une intelligence, on va dire, qui vont être justement plus portées sur les arts, les mots, quelque chose d'un peu moins, palpable, un peu moins concret, un peu voilà dans la création, l'imaginaire, la sensibilité, l'empathie, toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'empathie et pas de créativité, c'est pas ce que je dis. Mais ce bouquin était très intéressant parce qu'il t'explique que il y a plein de formes de haut potentiel et que certains ça va être des génies informatiques. Et puis d'autres, ça va être des génies de la poésie, tu vois, et que c'est très difficile de quantifier. T'en as, ils vont être 55, t'en as 60, 40, 70, 30, 100% et zéro de l'autre, etc. Ça, c'est intéressant parce que ça te permet de mieux te comprendre, toi, et donc de mieux t'analyser, et donc de mieux t'accepter. Mais savoir que t'as 132 ou 143, très sincèrement, à quoi ça sert, à part dire aux gens « Ah, j'ai 143 ». On s'en fout que t'es 143. Ça veut rien dire, tu vois. Et puis, qu'est-ce que t'en fais de tes 143? Parce que moi, je connais plein de 110 qui ont monté des empires. Toi, t'as 143 et t'es assis là avec un Perrier à me dire « J'ai 143, mais t'as rien fait de ta journée ». Donc, tout ça ne veut rien dire. Je pense que... Et puis, en plus, on sait que le QI, par exemple, ça peut s'améliorer. Ou inversement, ça peut s'amoindrir en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu fais, comment tu stimules ta tête, etc. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette intelligence? Qu'est-ce que tu en fais? Et donc moi, le haut potentiel m'a intéressé parce que quand tu as un trouble de l'attention avec hyperactivité, ça ne donne pas la même chose. Voilà, ça a un impact. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que j'ai pu lire et comprendre avec les gens à qui j'ai parlé, grosso modo, le trouble de l'attention avec hyperactivité va amoindrir ou à l'inverse augmenter certains aspects du HP, et inversement, le HP va amoindrir ou augmenter certains aspects du trouble de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité.
Ça doit poser problème dans le couple, enfin avec des copines, si jamais, tu sais, le premier truc que les nanas reprochent à leur mec, c'est « tu m'écoutes pas ». T'imagines si le mec il a un trouble de l'attention ?
Le trouble de l'attention, ça va pas forcément le rendre pire que ça, parce qu'en fait le trouble de l'attention c'est basé sur, en gros, si la chose ne te stimule pas suffisamment, tu ne vas pas arriver à avoir de l'attention. Ce qui fait que même un mec qui a un trouble de l'attention, si ce que sa copine lui raconte ça l'intéresse, a priori il devrait arriver à l'écouter. C'est donc c'est pas une bonne excuse. Enfin, si ton mec t'a dit ça, il te ment. C'est ça que je voulais te dire.
Toi, c'était ce qui t'avait particulièrement intéressé, c'était donc de relier la question des HP à la question.
Moi,
des
je cherchais
de
à me comprendre pour essayer de mieux m'intégrer dans la société, pour mieux capter qui j'étais, pour aller mieux. Donc, je m'en foutais du nombre de points. C'est pour ça que je suis pas allé faire des tests. Comme j'ai un trouble d'attention et hyperactivité, si je veux connaître mon nombre de points, il faut que je fasse un test bien spécifique. Mais j'ai grand-chose pas que ça à foutre. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, tous ces trucs-là, j'ai juste voulu comprendre. En gros, tu vois, c'est pareil. Bon. J'ai pas tout compris tout de suite, tu vois. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était vraiment l'obsession qui me rendait très 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 malheureux. Parce qu'au début, tu bois, t'es sous médoc et tout, donc tout se mélange, tu vois. T'es incapable de dire pourquoi t'es malheureux, t'as tellement de trucs différents, l'alcool amplifie tout, les médicaments ça amplifie tout, donc tu sais plus, tu vois. Mmh. Il a fallu des mois et des mois et des mois et des mois de clean pour que je commence à faire le tri et voir aussi ce qui restait. Parce que la dépendance accentue tes troubles, donc il y a des trucs qui disparaissent aussi. Et tu te aperçois qu'en fait, t'étais pas malade. C'est juste que c'est les drogues qui te rendent malade. Mmh. Parce que les drogues te rendent malade. L'alcool est un dépresseur. Donc, tu peux ne pas être. Tu dis, je suis dépressif. Mais non, peut-être parce que tu bois une bouteille de rosé tous les soirs. Arrête de la boire. Et peut-être qu'en fait, t'es pas dépressif, mon pote. Tu vois. Ouais. Donc, il y a plein de choses.
Il y avait que l'alcool ou il y avait aussi des médocs ?
Des médicaments aussi. Ouais. L'alcool et les médicaments. Je faisais un petit combo. Tout ce qui était joint et tout, ça m'a jamais. Bon, je fumais. Bon, de toute façon, je prenais tout. Hein. Enfin, je prenais tout. Non, pas vraiment, en fait. Cocaïne, une fois. Bon, alors, par contre. Heureusement, ça c'était un an avant ma cure, donc je savais déjà que j'avais un problème d'alcool et j'ai pris de la coke, et donc j'ai pris de la coke de 19h à 14h le lendemain, enfin n'importe quoi. Et j'ai tout de suite arrêté, j'en ai jamais repris, même si j'avais très envie d'en reprendre dès le lendemain. Wow. Mais j'ai arrêté tout de suite parce que je savais que j'allais devoir aller en cure de désintox. Je me suis dit, si je me rajoute un truc, je vais jamais en sortir. Mais je suis devenu dépendant immédiatement. J'ai pris une ligne où tout de suite j'avais envie d'en prendre 12 kilos. Donc, mais tout est comme ça. Il y a que le joint qui a pas trop pris sur moi. Parce que ça m'endormait. Non, tous ces trucs, j'ai toujours eu trop peur de perdre le contrôle. Bizarrement, l'alcool, j'avais l'impression de garder le contrôle. Je le gardais pas forcément, mais j'avais l'impression. Alors que tous les trucs d'acide et tout ça, je me disais, oh là là, non. Parce que ça, je le prenais, je savais pas du tout l'effet que ça allait donner. L'alcool, c'est moi qui dose, je savais exactement ce que je buvais. Je peux boire gorgée par gorgée, c'est moi qui gère. Alors que les cachets, là, putain, tu prends ça, tu sais vraiment pas où tu vas te retrouver dans 15 minutes, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai jamais voulu.
Et tu dis justement que tout ça, ça rendait compliqué les relations aux autres, tes amitiés, tes histoires d'amour. En fait, est-ce qu'il y avait un schéma répétitif au moment où une dispute, une rupture de confiance, un moment où tu te sépares, où tu veux plus voir les gens ?
Bah, toujours les mêmes schémas, hein, tu sais. Toujours les mêmes schémas, manque de confiance. T'es complètement. De toute façon, tu n'as pas confiance en toi, tu veux pas avoir confiance dans les autres.
Hein. Après, manque de confiance alors que t'es intelligent, que tu le savais, que t'es plutôt un beau mec ?
Mais c'est pas un manque de confiance en moi, c'est un manque de confiance dans les autres. Toi, t'as un manque de confiance en toi parce que t'es pas bien, parce que tu bois, parce que t'as des problèmes dans ta tête et que donc du coup t'as pas confiance en toi parce que tu te considères pas comme quelqu'un de bien. Donc comme tu considères pas comme quelqu'un de bien, tu peux pas croire que quelqu'un t'aime. Comme tu crois que quelqu'un t'aime pas, en couple, voilà, t'es compliqué. Ouais. J'étais compliqué parce que quand t'es pas bien, t'es compliqué. Et après, j'étais beaucoup trop mal pour être heureux en couple et pour rendre les gens avec qui j'étais heureux. Donc j'ai eu la chance, ça marche aussi pour mes amitiés ou pour ma famille, des gens qui m'ont toujours, quand j'ai pu dire des choses horribles par exemple, qui ont toujours fini par me pardonner en se disant, ils se disaient pas Jérémy c'est un connard, ils disaient putain il est vraiment malheureux en fait, il est vraiment triste, et ils voyaient, ils ont toujours su faire la différence entre quelqu'un qui est juste un connard et qui te traite mal et quelqu'un qui est pas bien et qui peut pas s'empêcher de dire un truc horrible et regretter dans la seconde et voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir des gens très bienveillants et très gentils autour de moi qui ont toujours pris le temps de me comprendre et qui ont toujours gardé encore une fois de la tendresse, même en amitié, même je sais que par exemple il y a des gens je vois plus et je sais que ils ont gardé une tendresse pour moi et c'est réciproque, même si on se parle plus, même si on s'est disputé, il reste quelque chose parce que c'est comme ça et parce que j'ai toujours eu des relations très très sincère. Donc, donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi aussi, moi, quand je m'en suis sorti, à pas me haïr, à pas me faire haïr. C'est parce que c'était pas, le vrai moi était toujours présent, et je crois que ça a suffi pour que, encore une fois, pour garder des gens autour de moi qui m'ont toujours aimé, qui ont toujours été bienveillants.
Tu dis, je suis malade, et c'est hyper courageux. Est-ce que, tu vois, c'est ce que je te disais dans mon poème, j'ai l'impression qu'en France, il y a un tabou quand même là-dessus, sur les maladies mentales, et notamment, pour le coup, dans une catégorie bien particulière, qui sont les artistes, tu vois, alors que j'imagine que ça serait important d'en parler, peut-être pour décomplexer aussi tous ceux qui vraiment luttent au quotidien. T'as l'impression, avec Instagram, les réseaux sociaux et tous les talk-shows, les émissions, que c'est... une course à la bande de potes hyper cool et que tout le monde se marre et que tout le monde va bien. Est-ce que justement, toi, c'était politique de dire, en fait, bah non aussi, c'est, enfin, il faut en tant que personne connue, médiatisée, je vais aussi aborder... je suis pas au-dessus, en fait. Il n'y a pas les gens malheureux dans leur HP, leur hôpital psychiatrique, et les artistes sur Instagram et dans leur talk show et avec sur scène.
Je n'ai pas mis mon témoignage dans ce contexte-là. Je n'ai pas réfléchi comme ça. Je me suis simplement dit, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est la parole. Là, actuellement, je vis sans médicaments, sans traitement, sans rien, et je suis plutôt heureux. Et donc, ce qui m'a sauvé, c'est la parole. C'est d'aller dans des groupes de parole, aller aux Alcooliques Anonymes, aux Narcotiques Anonymes, parler avec des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas. C'est avoir des psychiatres qui m'ont dit « oui, vous avez ça, non, vous n'êtes pas fou, oui, ce trouble-là, il est dû à ça, voilà. » Et c'est d'avoir un entourage qui me dit « on t'aime et on t'écoute et explique-nous. Et on ne va pas te juger. Même si tu m'as dit un truc horrible il y a 6 mois, je t'écoute. Explique-moi pourquoi tu m'as dit ce truc horrible et je vais essayer de me dire que tu n'es pas un connard et que juste que peut-être vraiment tu es malade. » Donc voilà, c'est ça qui m'a sauvé, moi. Donc je me suis dit « 6 mois, ça m'a sauvé, ça va sauver d'autres gens. » Donc le fait d'aller sur scène et de raconter ce qui s'est passé, c'était à la fois impossible autrement parce que j'écrivais un spectacle sur la santé, donc c'était logique d'en parler. Si j'avais pas écrit un spectacle sur la santé, je n'en aurais pas parlé. Donc c'était déjà, voilà, c'était aussi une question d'honnêteté, parce que après cette cure de désintox et avant cette cure de désintox, je n'ai jamais été la même personne. Donc j'avais envie de présenter cette nouvelle personne aux gens. Et puis parce que je savais que ça allait aider plein de gens. Mais je l'ai pas mis dans un contexte de on n'en parle pas assez, donc faut en parler. Même si
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis aperçu qu'effectivement, on n'en parlait pas assez. Mais après, c'est aussi propre à chacun. On ne va pas forcer les gens à se confier, tu vois. Il faut le faire que si on se sent de le faire.
Bah, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a amené au podcast. C'était le podcast de Dax Shepard, qui est un humoriste, un acteur. Et au départ, il a lancé ce podcast parce qu'il était alcoolique. Et qu'en fait, lui, ça lui permettait de tenir un journal du nombre de jours et d'en parler et de recevoir des invités. Et la discussion qu'il avait à ce propos-là, elle n'était pas... jamais se glorifier de ça. Enfin, c'était juste qu'il voulait s'en sortir. Et il y a eu un truc qui, je pense, assez bouleversant, c'est qu'à un moment, il a replongé. Et parce qu'en fait, il a eu un accident et donc à l'hôpital, ils lui ont donné des médocs. Et ensuite, il est retombé dans ses addictions et il est revenu dans le podcast. Il en a parlé avec sa femme, avec ses filles. Et ensuite, il est revenu. Il a dit bah voilà, j'ai dû faire une pause, mais je suis retombé dedans. Et c'était un peu fou, quoi. En tout cas. Pour moi, mon expérience d'auditrice, et je pense peut-être pour tes spectateurs aussi, tu vois, de se dire, ok, enfin, c'est une nouvelle parole. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraissait nouveau, je ne l'avais jamais entendu comme ça, quoi. Tu t'inscris dans quelque chose que je trouve assez moderne et qui est pas très... qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je t'ai entendu dans Un bon moment. C'est que même d'habitude, Un bon moment, c'est la franche rigolade. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est sympa, tout est léger.
Un bon moment, c'est intéressant parce qu'au début, on ne devait pas du tout parler de ça. Hein. Enfin, on a dit qu'on l'évoquerait, mais c'était pas une spéciale Jérémy Ferrari des problèmes d'alcool. Mais c'est juste qu'en fait, la discussion s'est passée comme ça et que Kian m'a dit, tu sais quoi, en fait, c'était cool, on va garder que ça, puis voilà. Mais c'était pas voulu, donc c'était très... Le podcast est très sincère parce que c'est une question qu'on a amené une autre et puis ainsi de suite. Mais après, je pense que Internet a a aussi libéré une certaine parole. Tu vois, par exemple, sur le féminisme, sur les agressions sexuelles, sur la sexualité, les genres différents, les gens qui... Bon, voilà. Donc y a aussi une libération de la parole. Pas forcément par des stars, mais par aussi des gens qui ne sont pas connus. Et c'est très bien aussi. Donc, je pense qu'Internet a... Internet, c'est souvent les extrêmes, tu vois. C'est-à-dire que t'as effectivement toute une partie de ces gens qui nous font croire qu'ils sont que heureux et que voilà. Et puis t'as aussi libéré une certaine parole sur plein d'autres choses. Donc je pense que, en fait, ce que je dis surtout, c'est qu'en France, on a des vrais soucis avec l'addiction. Moi, je suis rentré en cure de désintox. Je savais pas que c'était une maladie. Je savais pas que l'alcoolisme c'était une maladie. Mais quand je dis maladie, c'est une maladie neurologique. C'est-à-dire c'est pas l'alcoolisme, c'est de la dépendance. On appelle ça de la maladie de la dépendance à des émotions, qui est reconnue par l'OMS. Est-ce qu'on sait ça en France? Que c'est une vraie maladie neurologique? Quand on te dit oui, c'est qu'un problème de volonté, ben non, parce que cette maladie, ça fait partie de ce problème. C'est que ça annihile ta volonté d'un point de vue physiologique. Ça te l'annihile. Donc quand on te dit, non, c'est qu'une question de volonté, voilà. Donc il y a encore des centres en France qui proposent aux gens de maîtriser leur consommation, alors qu'on sait que c'est pas possible. Un mec qui a une... C'est physiologique. Ta zone de récompense, elle est déréglée, elle est malade. On ne sait pas la guérir. Donc, si ta zone, elle est déréglée, on ne peut pas t'apprendre à réguler ta consommation. Donc, y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais parce qu'aussi, le lobby de l'alcool en France est très puissant. L'alcool en France, le vin en France, le champagne en France, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vignes et de vins et qui possèdent des journaux. Donc, faut pas t'étonner de voir des spéciales vins dans certains de ces journaux, tu vois. Donc, donc c'est un problème. Quand on te dit, il y a encore des gens qui pensent qu'un verre d'alcool par jour, c'est bon pour la santé. Il y a encore des gens qui pensent ça.
Ah, c'est ma pas mère, vrai. Elle pense ça, ouais.
Sauf que c'est faux. Ouais. On peut pas dire que c'est bon pour la santé un verre de vin par jour. C'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. Je suis pas en train de dire aux gens ne buvez pas. Je m'en fous complètement. Je vais pas, en plus, je serais mal placé pour juger qui que ce soit. C'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que je veux pas que les gens pensent que je suis un donneur de leçons. Je vais pas dire aux gens arrêtez de boire. Enfin, si t'arrives à boire qu'un verre ou deux par jour et que t'es bien comme ça, je veux dire, mais génial pour toi. C'est super. C'est vraiment cool, j'adorerais pouvoir faire ça, je suis incapable, donc je le fais pas, mais j'adorerais pouvoir faire ça. Donc je dis pas aux gens, ne buvez plus rien, mais ne mentez pas aux gens, leur dites pas un verre par jour, c'est bon pour la santé, c'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas bon pour la santé, un verre par jour. Donc, c'est pas forcément, je vais pas dire que ça va détruire ta vie si tu bois un verre par jour, bien sûr que non, mais c'est pas bon pour la santé. Parce que le problème, qu'est-ce que ça insinue, tu vois? Tu vois, de dire un verre c'est bon pour la santé, c'est-à-dire que deux c'est pas trop mauvais, trois c'est pas dramatique, quatre c'est pas l'enfer, et puis une cuite de temps en temps c'est pas trop grave non plus. Tu vois, donc en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça induit quelque chose dans la tête des gens qui est pas juste. Non, un verre par jour c'est pas bon, mais un paquet de chips c'est pas bon non plus. Sauf qu'un paquet de chips, tu risques, c'est quand même rare que tu te mettes à bouffer 6 kilos de chips par jour. Ça arrive aussi, il y a des problèmes des gens qui ont des dépendances alimentaires qui peuvent bouffer 6 kilos de chips par jour, certainement, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, on arrête de dire que c'est bon pour la santé un verre par jour, parce que on sait maintenant que c'est pas vrai, mais on t'a dit ça quand même pendant longtemps. Ça venait de ce fameux truc du régime méditerranéen où on te disait c'est parti de là, hein, sauf qu'on a retenu que le vin, c'est marrant. Le reste on a oublié, mais ça venait de ça. On t'avait dit oui, on a étudié les gens, en fait ceux qui mangent ça et qui boivent un verre de vin par jour, ben, tout ça leur donne une vie meilleure. On a complètement omis le reste des données qui étaient où est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs activités, quels sont leurs taux de stress, il n'y avait pas que ce régime alimentaire. Bon, on a retenu que le régime alimentaire et puis finalement on est arrivé à retenir que le verre de vin. Bon, finalement tout ça a été démonté ensuite par les scientifiques, mais il y a encore des gens qui pensent qu'un verre de vin c'est bon pour la santé. Tout ça c'est parti de gens qui ont menti et qui ont raconté n'importe quoi sur un truc. Mais c'est tellement chouette de se dire qu'un verre c'est bon pour la santé, on a tous envie d'y croire, hein.
Ouais, c'est sûr.
Donc je comprends très bien que le truc ait marché, mais c'est pas vrai.
Tu t'es jamais demandé à un moment si t'étais dans le spectre de l'autisme quand tu cherchais une raison, un diagnostic?
Non.
Non.
Non, parce que je fréquente, je connais, je suis très proche de plusieurs autistes Asperger. Je sais ce que c'est qu'un autiste Asperger. Je sais les souffrances qu'ils endurent, je sais ce que c'est, et je sais que je ne suis pas ça. Et pour tous les autres troubles autistiques, parce qu'il en existe plein, hein, il y a plein d'autismes différents, je sais aussi que je ne suis pas ça. Donc après savoir est-ce que je suis dans le spectre du trouble autistique, bon, c'est pareil, c'est aller dans du détail qui ne va pas me servir très fort. Après, si je veux creuser le truc à mort, ben, je vais me dire oui, alors je suis très angoissé dans cette situation, et certains autistes ont aussi ce genre d'angoisse dans cette situation, donc oui, si je cherche et que je veux cocher des cases, je vais certainement trouver quelques trucs qui ressemblent. Pour être proche d'Autis Asperger, je sais que j'ai quelques similitudes sur certaines choses, notamment des angoisses dans certaines situations, etc. Des incapacités à répondre à certaines questions ou des blocages. Donc, il y a quelques trucs, mais comme je sais que fondamentalement je ne suis pas autiste, j'ai pas creusé le sujet parce que ça sert à rien. C'est juste pour ajouter une ligne à mon CV. Bon, il est déjà assez grand comme ça.
Ouais.
Ça t'en fait, je peux en faire une pause, je vais juste faire pipi.
Ah, bien sûr. Est-ce que t'as encore 10 minutes à peu près ?
Tout va bien. Je suis pas pressé. Okay. L'important, c'est que t'aies tout ce qu'il te faut et que ça te convienne et que t'aies de quoi faire un truc chouette et tout.
J'ai déjà largement en matière.
Là, non, mais vraiment, prenons le temps, tout va bien. Tout va bien.
C'est adorable. Et je me disais, ton spectacle, en fait, j'ai jamais vu de spectacle comme ça qui passe, tu vois, en fait, du stand-up, ou en fait, quand même un one-man show, à imitation, en effet, jeu d'acteur, à pas conférence, mais il y a un côté un peu aussi TEDx, où t'apprends, où en fait, à un moment, t'es plus en train de rire, t'es en train vraiment d'accumuler des informations en fait dans ta tête, puis à un moment on switch complètement de mode de pensée. Enfin, tu nous emmènes d'un endroit à un autre. Moi, j'ai pas eu la chance de voir tes spectacles précédents. Est-ce que celui-ci, tu l'as pensé de cette manière ? C'est au fur et à mesure de l'écriture que tu t'es dit tiens, en fait, je veux digresser vers ça. Est-ce que tu t'es dit ok, c'est pas grave, ça dure 3 heures, ça durera 3 heures. Est-ce qu'à un moment t'as été tenté de te dire je coupe tout, je laisse qu'une heure. Est-ce que ça te donne envie pour le prochain de continuer dans cette voie comme ça ?
J'ai toujours fait des spectacles longs. Alléluia Bordel durait 2h15, 2h20. Vente de pièces à Beyrouth durait 2h15, 2h20. Donc ça a toujours été. J'ai jamais trouvé que c'était un problème. Je me suis toujours dit bon, écoute, s'il y a des gens qui trouvent que c'est trop long, après tout ils peuvent s'en aller. Tu vois, c'est pas très grave. C'est pas une prise d'otage. Hein. Si des gens veulent partir, ils peuvent partir. Ils sont dans un théâtre. Si à un moment donné, au bout de 2 heures, ils disent bon, j'en peux plus, ils partent.
Là, c'est 3 heures.
Oui, mais alors là, c'est particulier. Ouais. C'est parce que le spectacle durait 2 heures.
Ok.
2h15. Et puis il y a eu le Covid. J'ai créé un spectacle sur la santé. Donc je suis obligé de rajouter des parties sur le Covid.
Okay.
Elles peuvent pas être moins fortes, moins documentées et moins travaillées que les autres. C'est impossible. Il faut que ce soit à la hauteur du reste du spectacle. J'écris donc environ une heure supplémentaire que je coupe au maximum, et je coupe au maximum ce que j'ai déjà en me disant bon allez, comme je vais rajouter du texte, je vais élaguer au maximum tout ce qui marche pas, tout ce qui machin, et j'arrive à une version qui dure 2h45. Je ne sais plus couper. Tu sais, il y a des gens qui me disent oui, mais en vrai, tu peux encore couper. Oui, en vrai, je peux encore couper, sauf que si je coupe, j'enlève du propos et du fond au spectacle. Donc c'est vraiment chiant. Tu vois, l'homéopathie, il dure 23 minutes.
J'adore.
On peut me dire,
c'est
tu peux couper de l'homéopathie. Ah, tu vas me dire, tu peux couper de l'homéopathie. Oui, mais ça veut dire que je vais enlever un pan d'attaque sur l'homéopathie. J'ai 5 points d'attaque, je veux traiter les 5. Donc j'ai pas envie de le faire à 3 ou à 4. Je vais le faire à 5. Et donc, je suis arrivé à une version qui faisait 2h50. 2h45, 2h50. Après, c'est parti, il marche très très bien. Donc il y a des petites impros qui se rajoutent, machin. Donc on arrive à 3h. Et je commence à jouer le spectacle, j'étais en province. Je dis, écoute, on va le jouer plusieurs fois, 3 heures, et puis on va voir ce que ça donne. Je ne sens pas de baisse de régime, je ne sens pas que les gens s'ennuient, je ne vois pas de gens regarder leur montre, je vois des gens qui partent mais qui reviennent, ils sont juste à l'épicer. Donc, je vois des gens qui sont à la fin debout et qui restent et qui m'écoutent encore quand je leur dis merci. Et le peu de fois où j'ai vu des gens partir, ils m'ont fait un petit signe en me montrant la montre en disant, j'ai ma babysitter ou j'ai mon métro. Bon, donc.
Oui.
Donc voilà, donc
tout le monde est content.
Donc,
et là...
Très sincèrement, je préférerais faire 2h15, je serais beaucoup moins fatigué.
Tu m'étonnes.
Je dormirais une heure plus tôt, j'irais manger une heure plus tôt, et sur 150 dates de tournée, ça ferait 150 heures de moins sur scène. Donc,
oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est l'impro. Tu fais aussi de l'impro à l'intérieur du spectacle, parmi ça aussi. Ouais.
Mais je crois que ce spectacle, il est nécessaire en l'état.
Okay.
Il est nécessaire. Il faut qu'il fasse ce temps-là. Sinon, je dois aller couper du fond, et je peux pas couper du fond. Donc voilà. Et après, il sera. Et pour le coup, tu vois, quand là, je pars en tournée Zénith et après, on va faire Bercy. Là, c'est chouette d'avoir 2h45, d'avoir 3h. Parce que quand tu vas voir un concert, ça dure 2h30, 3h. Il y a beaucoup de concerts. Je crois qu'Orelsan fait 3h sur scène, je crois. Je suis un artiste, alors je suis pas un chanteur, mais je vais t'apporter autant d'émotions. La chance que j'ai, et c'est pour ça que je peux faire des spectacles de 3 heures, c'est parce que je te fais pas 3 heures de vannes, je te fais 3 heures, je te fais des vannes, Je te fais peur, je te fais pleurer, je te fais crier, je te mets en colère, je te fais que tu me détestes pendant 10 minutes, puis après je te fais un truc et tu dis oh, putain l'enfoiré il nous a eu. Donc je te fais tellement de choses que normalement tu vois pas les 3 heures passer. Donc à partir du moment, un film peut durer 3 heures, un concert peut durer 3 heures, donc un spectacle d'humour peut durer 3 heures. Après on se dit ah c'est pas possible 3 heures. Mais parce qu'en fait on s'imagine un spectacle classique. Je crois que je fais pas un truc classique.
Ah non, pas du tout. Alors là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais c'est aussi pour moi ça m'a fait du bien parce que tu vois j'ai commencé le stand-up depuis 4 ans. Avant j'étais comédienne, mais j'ai découvert aussi le stand-up avec les plateaux de stand-up où t'as que 5, 10 minutes max et où il faut être drôle, il faut balancer de la vanne, la vanne, la vanne et au final t'as vraiment cette culture de la punch et en fait c'est chouette aussi d'aller voir ton spectacle et de se dire ah mais en fait je peux aussi m'autoriser moi des moments, alors faut que ce soit marrant, mais où peut-être que je peux dire un peu plus que je pense, peut-être que je dois, peut-être que la dictature de la vanne elle peut s'estomper par moment pour...
Je pense que la règle c'est le cancer de la réussite humoristique. Ce qui marche, c'est surprendre les gens. C'est pour ça que ceux qui commencent à faire tous la même chose ont du mal à sortir de l'endroit où ils sont. Parce que les plateaux d'humour, par exemple, moi j'en fais pratiquement jamais. C'est pas que je suis contre, je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est très bien que ça existe. Il y a plein de gens qui arrive à éclore de ça, c'est très bien pour... Là, je travaille avec Alexandre Kominek en ce moment, par exemple, qui vient d'arriver chez nous. Il va tester tous les trucs qu'on fait sur des plateaux, et c'est formidable. C'est un mec qui a beaucoup de talent, et c'est génial. Paul Mirabel, qui est un mec que j'aime beaucoup, va faire aussi beaucoup de plateaux, et c'est formidable. Bon, donc je n'ai rien contre les plateaux, mais ça a sa limite. Ça a sa limite, parce que la forme du plateau te force à écrire des sets de 5, 6 ou 7 minutes, que tu testes devant un public spécifique, parce qu'un public qui vient... boire un mojito en venant voir 8 ou 9 humoristes différents, c'est pas forcément le même qui va payer 50 euros sa place pour venir voir un spectacle de 2h30. Peut-être c'est le même, peut-être c'est pas le même. T'as plein de gens qui payent des spectacles, t'as plein de gens qui veulent pas voir des plateaux d'humour. Donc, c'est pour ça aussi que ça se fait dans des petits lieux. Tu vois.
Ouais.
Tu fais des plateaux d'humour à l'Olympia, je suis pas certain que t'aies du monde tous les soirs. Tu vois. Donc, tout ça, ça a sa limite.
Ouais,
donc, c'est un outil. Mais ce n'est pas une fin en soi.
Mmh.
Et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humoristes qui restent dans ces plateaux, qui restent entre eux, et qui cherchent une seule chose, c'est être le plus drôle de ce plateau. Mais le problème, c'est que ce plateau, c'est pas la carrière d'un humoriste. C'est un outil. Il faut venir, tester quelques trucs si tu as envie, et partir. Mais c'est un outil. Donc, et donc le problème, c'est que tu te retrouves avec plein de mecs qui ont des spectacles d'une heure, qui sont en fait des bouts de trucs qu'ils ont testés. Et en fait, ils se disent, bah, une fois que j'aurai 6 fois 10 bonnes minutes, j'ai un spectacle. Mais du coup, c'est quoi ton spectacle?
Il n'y a pas de propos, quoi.
Tu vois, et donc du coup, bah, ok, après, t'as un spectacle d'une heure qui est drôle. Et c'est bien, c'est déjà bien, déjà formidable. Mais qu'est-ce tu peux pas espérer que les gens sortent en disant waouh. Si tu veux ton waouh, il faut les amener ailleurs, il faut aller chercher dans tes tripes, il faut aller chercher dans ton estomac, puis il faut respecter le public. Et il faut être humble. Être humble, c'est se rappeler qu'on est 1000, 2000 ou 3000 ou 5000 ou 10 000 ou 20 000 à écrire des sketchs. Donc qu'est-ce que tu vas aller chercher en toi que personne d'autre peut donner? Combien d'heures, de milliards d'heures tu vas passer sur ta phrase pour qu'elle soit parfaite? Et une fois que ta phrase est parfaite, comment tu fais pour que ton paragraphe soit parfait? Une fois que ton paragraphe est parfait, comment tu fais pour que tes 10 minutes soient parfaites? Et une fois que tes 10 minutes sont parfaites, comment tu fais pour rajouter un propos au thème que tu as choisi? Comment tu fais que, et après, il faut travailler juste le propos. Qu'est-ce que je pense vraiment de ce thème? Et comment je fais pour que ma manière de penser, elle soit juste et objective? Eh ben, moi, je débat sur les thèmes avant de les traiter. Même avant même de commencer à réfléchir à des vannes, qu'est-ce que je pense de ce thème? Et je suis avec Michael, je suis avec Inès, je suis avec les gens de mon bureau, je suis avec mes amis, et je débat. Je pense ça. Et toi? Ah, moi, je pense que t'as tort là-dessus. Ah bon, pourquoi? Et d'abord, je définis mon propos. Qu'est-ce que je pense? Je réfléchis à ce que je pense sincèrement du thème. Et une fois que je me dis, ok, je pense ça, ça, dans ma pensée, je vais le mettre de côté parce que c'est très personnel, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, donc je suis pas objectif. Qu'est-ce qui reste d'objectif dans mon propos? À peu près ça. Et ça, est-ce que c'est la vérité? Non, mais c'est quelque chose d'intelligent. En tout cas, c'est quelque chose qui prend plein de points de vue différents et qui, normalement, dit pas trop de conneries. Alors maintenant, je vais construire autour de ça. Tu vois, c'est ça que je fais. Donc, et c'est comme ça que je pense que tu arrives à proposer quelque chose. Les gens, ils font « Putain, j'ai jamais vu ça
ouais. ».
Moi, tu peux ne pas aimer ce que je fais. Je comprends très bien que tu n'aies pas envie d'avoir un mec ouf sur scène pendant 3 heures qui insulte l'humanité et qui te sort des classeurs de données, etc. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer ce que je fais. Je comprends très bien ça. Mais je pense que il faut venir voir une fois en salle avant de dire j'aime pas. Je n'accepte pas les gens qui me disent je n'aime pas ce que tu fais, viens voir ce que je fais en salle. Et après, si tu viens à un spectacle et tu dis j'aime pas, je dis, bah voilà, bon bah là t'aimes pas.
Il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas ce que tu fais sans savoir ce que tu fais.
Bon, bah tu sais, il y a beaucoup de gens qui te disent j'aime pas ce que vous faites. Enfin, moi j'ai des gens qui viennent me voir au dédicace en me disant j'aimais pas ce que vous faites, j'aime pas trop ce que vous faites, mais j'adore le spectacle. Mais j'ai dit, mais du coup c'était quoi? Non, mais ils vont quand même se baser sur des trucs, sur des sketchs à la télé ou sur des. Bon, après je peux comprendre, mais un sketch audio impossible, ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire sur scène, ou une interview. C'est pas ce que je fais sur scène, tu vois. Ah ouais. Tu peux me trouver dans une interview, même une interview. Je veux dire, moi en plus, je ne sais pas mentir, je ne sais pas me cacher. Donc je peux être dans une interview, je peux être très dans la vanne, puis le lendemain faire une interview, je suis hyper premier degré. Je peux être dans une interview, je suis un peu agacé parce que je suis un peu énervé. Comme moi, je ne sais pas mentir. Bon, donc tu tombes sur une interview où j'ai pas été très. Ce jour-là, j'étais pas trop de bonne humeur. Du coup, je suis un peu. Dans mes réponses, je suis un peu agressif ou pas agressif, mais tu vois, je vais être un peu rude et tout. Oh, il est pas très sympathique. Bon, mais après, moi, je suis un être humain normal, je ne fais pas semblant. Donc, si tu me vois de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Si je suis pas de bonne humeur, dans l'interview, tu vas bien voir que je suis pas de bonne humeur. Bon, c'est comme ça.
Et dernière question avant de passer au petit questionnaire de Proust, est-ce que t'as déjà une petite idée du spectacle prochain ou pas du tout
Je pense que j'irai sur l'écologie.
Ah, ouais, passionnant.
Ouais. Mais c'est pas encore fixé, mais je pense.
Oh, j'ai hâte de voir ça. Je pense que tu vas bien dézinguer quelques trucs au passage.
Bah, je pense que c'est une urgence, et pour le coup, c'est pas très original comme thème, parce que c'est un thème très global. Mais en fait, là, c'est vraiment moi, en tant qu'être humain, je me sens pas de retarder le truc, parce que je pense qu'on est dans une urgence, et que je suis obligé de me... Il faut que je m'implique là. Je fourmille, je trépigne en fait. Il faut que je m'implique dans l'écologie.
J'ai hâte de voir comment tu vas dénoncer les incohérences. Parce que c'est ça que j'ai trouvé aussi très réussi dans Anesthésie Générale, quoi. Et notamment tout ce passage sur l'homéopathie. C'est quand même tout l'argumentaire en fait qui est fou. Et à la fin, t'as waouh! Et c'est hyper bien démontré en fait. Il y a un truc de philosophie et ça en devient drôle. Parce qu'en fait, comme ce que tu dénonces comme système est absurde, ça rentre dans la case de spectacle d'humour, parce qu'en fait tu ris, t'as un rire nerveux et tu te dis mais en fait c'est fou et ça, y en a plein de choses je pense dans l'écologie pareil où tu vas, enfin moi je serais curieuse en tant que spectatrice de retrouver ce genre de système quoi.
Ouais, j'espère que ça va trop me déprimer par contre parce que ça va être un sujet
Ah ouais, ça risque un peu ouais, j'avoue de
mais rendre... ça va être chouette
ouais.
Et j'ai hâte de m'y mettre. J'ai déjà écrit à Hugo Clément en lui disant.
Ah ouais, ouais.
Je lui ai dit, Hugo, ouais. je risque de te contacter très prochainement. Ouais. Il m'a dit avec grand plaisir.
Génial.
Donc, je très admiratif de ses combats.
Ouais.
Ça doit être extrêmement fatigant de porter ça au quotidien.
Ouais, c'est clair.
Et je suis très admiratif. Je trouve que c'est quelqu'un de... Heureusement, on a encore des gens comme ça.
Ouais.
Donc, j'ai hâte de m'y mettre.
Voilà. La qualité que tu préfères chez un homme?
La gentillesse.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'intelligence.
Le principal trait de ton caractère?
L'énergie.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
La fidélité.
Ton principal défaut?
La colère.
Ton occupation préférée?
Travailler.
Ton idée du bonheur?
La sérénité.
Quel serait ton plus grand malheur?
Les salles vides.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Le mensonge.
Comment aimerais-tu mourir?
Serein.
Et enfin, ton état d'esprit actuel?
Conquérant.
Waouh. Génial. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci.
Et voilà, c'était Jérémy Ferrari. Un grand merci à son attaché de presse, Anne-Sophie Nguyen, pour avoir organisé cette rencontre alors que l'agenda de Jérémy, comme vous pouvez l'imaginer, est bien chargé. Si le sujet de l'addiction et l'importance des groupes de parole vous touchent, je ne saurais que trop vous recommander la lecture du dernier livre de Virginie Despentes, « Cher connard », qui parle justement de la richesse des réunions entre alcooliques et narcotiques anonymes. Si vous voulez une source fiable sur la question des personnages HPI, je vous renvoie à la série d'épisodes « Contes et légendes de l'intelligence » avec Stéphanie Aubertin de l'excellentissime podcast « Méta de choc » sur la métacognition, on en interroge comment on pense. L'host Elisabeth Fétit reçoit des experts et des témoins, c'est passionnant. Je suis une très grande fan et je peux déjà vous annoncer que j'aurai l'honneur de recevoir Elisabeth dans le podcast pour parler des dérives de la spiritualité New Age. Donc d'ici là, je vous encourage à aller découvrir Méta de choc. Vous savourerez d'autant plus l'épisode avec Elisabeth quand il arrivera. Pas tout de suite, avant d'autres très belles surprises. Je vous embrasse très fort mes agneaux, prenez bien soin de vous.
Hold up. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.